de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bienvenue à tous dans Jeux de Santé, votre magazine santé sur Radio Campus Rennes. Cette semaine, je vous propose un reportage réalisé lors de la semaine d'information sur la santé mentale qui se tenait à Rennes du 14 au 26 mars, laquelle était organisée par le collectif rennais de santé mentale. Cette année, c'est le thème de l'adolescence qui a été mis en débat avec au programme des rencontres, des conférences, des ateliers et des portes ouvertes. Chez Radio Campus Rennes, nous nous sommes rendus aux portes ouvertes de l'Institut Tomkevitch à Béton, lequel abrite un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique plus connu sous l'acronyme ITEP. Je vous emmène donc à la rencontre de Philippe Reux, son directeur, ainsi que les membres de son équipe et Kevin, jeune de 17 ans pour qui l'aventure au sein de l'ITEP est sur le point de s'achever.
Philippe Reux, directeur du dispositif ITEP Tomkevitch Les Rivières, qui comprend donc un établissement pour 22 adolescents de 14 à 18 ans. Alors l'idée de dispositif, c'est bien l'idée qu'on va intervenir de façon conjuguée au niveau des différents services et établissements de l'association pour répondre au plus près des besoins des jeunes, qui est un besoin en évolution constante et qui nécessite une réactivité dans la décision de réorientation du projet du jeune. Donc le dispositif ITEP, il va allier souplesse et réactivité. Il va être capable de proposer aux jeunes en temps réel une solution qui est la plus adaptée à ses besoins. Et surtout, il va éviter le parcours de soins, parce qu'on a de plus en plus la question du parcours de soins à réserver, puisque le rapport Denis Piveteau, Zéro sans solution, est un rapport qui permet effectivement de se rendre compte qu'un jeune qui bénéficie d'un parcours de soins, on doit dans nos établissements éviter qu'il soit en rupture de ce parcours, sinon ce jeune-là peut être en danger de désocialisation importante. Un dispositif, c'est par exemple un enfant rentre par la porte CESAD, donc service d'éducation et de soins spécialisés à domicile, et puis s'il a besoin de plus, on peut très rapidement le faire passer dans un établissement plus global, comme un établissement de celui de Tomkevitch à Béton, qui a un internat, du semi-internat, du CESAD, et puis de la famille d'internat. Donc c'est permettre à l'enfant, en fonction de ses besoins, de faire évoluer le projet, donc de bénéficier de son projet au plus proche de ses besoins. Alors moi, j'ai abordé ces portes ouvertes surtout avec une envie de faire découvrir ce monde plein de vie qu'est l'ITEP. Et qu'est l'adolescence aussi, que sont ces adolescents dans l'ITEP. J'entends souvent, oui, alors, si c'était mon fils, je foutrais un coup de pied derrière, et puis la question serait vite réglée. Je pense que c'est interdit maintenant, par la loi, mais c'est aussi, une envie de faire comprendre aux gens que ces enfants-là, ils sont d'abord des enfants qui souffrent, et que c'est la souffrance qui les amène à être comme ça, et que c'est pas volontaire, que c'est pas quelque chose qu'ils ont intrinsèquement en eux, mais c'est vraiment quelque chose qui est en réaction face à une souffrance ou une peur, parce qu'il peut aussi y avoir les deux. Ces enfants, ils ont de la souffrance, mais ils ont aussi beaucoup de peur, ils sont bourrés de peur, et ils sont tellement bourrés de peur que plutôt que de recevoir des coups, ils préfèrent les donner, ils préfèrent anticiper en donnant des coups et ensuite en regardant un petit peu ce qui se passe, et en voyant si on est solide par rapport à ça. Donc moi, j'aurais envie de montrer cet univers qui peut être impitoyable par moment, mais qui peut être aussi plein de projets, plein de dynamisme, plein de construction et d'échanges.
Moi, je m'appelle Kevin Trabert, j'ai 17 ans, je vais être sur mon année de 18 en août. Je suis en ce moment en CAP magasinier, entreposage, préparation de commandes chez à ma deuxième année là, de CAP. Je passe mon examen cette année et j'ai décidé de rester au sein, inscrit à l'ITEP Tomkevitch pour qu'il puisse m'aider pour avoir mon examen. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait toutes ces années parce que j'en avais besoin. Je regrette pas aussi de ne pas avoir travaillé avant parce que je suis venu ici. Je regrette pas, non, parce que finalement, si j'aurais regretté, j'aurais peut-être fait un autre parcours et ce serait peut-être pas aussi, aussi bien, aussi cool que celui-ci. Donc non, franchement, tous les jeunes qui ont du mal, je leur conseille de venir. Bah, j'étais au collège et non, ça n'allait pas. Pour moi, l'école, c'était pas mon truc. Et comme certains jeunes, hein, mais moi j'avais des troubles de comportement, je voulais pas travailler. C'est juste que je voulais pas travailler, c'est tout. En 4 ans, bah, la première année, c'était encore en préparation, j'avais du mal à écouter. C'est comme toutes les premières années. Et puis la deuxième année, j'ai commencé à grandir, à mûrir. Je commençais à faire des stages, à prendre conscience de plus à la vie réelle, ce qui va m'attendre si je bouge pas mon cul, quoi. Ça en dira. Voilà. Et puis, j'ai fait plein de stages, du coup, parce que moi, ce que je voulais, c'était aller directement dans la vie active. Mais justement, en allant dans la vie active, et j'ai appris que aussi, ça servait à grand chose aussi, les diplômes, quand même. Parce que ça, ouais, ça va nous servir pour plus tard, pour l'avenir.
Vous parliez de crise d'adolescence et ça me faisait penser justement à la particularité un peu du dispositif ITEP, c'est d'accompagner des jeunes qui donc ont des troubles du comportement. De quoi parle-t-on quand on parle de troubles du comportement et comment on distingue ce qui relève de la crise d'adolescence, de la rébellion adolescente et ce qui va relever plutôt d'un aspect peut-être un peu plus pathologique ?
Là-dessus, je dirais que les adolescents que l'on a expriment leurs besoins qui sont les mêmes que les autres adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve que ces adolescents sont d'abord des adolescents lambda, avec des difficultés psychologiques qui s'expriment par des troubles du comportement, qui peuvent être l'impulsivité, l'agressivité, mais aussi l'inhibition, parce qu'on a aussi des jeunes qui sont dans de l'inhibition, et cette façon de s'exprimer est aussi difficile à prendre en compte, parce que justement, elle n'est pas prise en compte souvent dans les difficultés psychologiques. Or, l'inhibition, c'est aussi un problème majeur de comportement, parce que ça empêche de s'exprimer, d'aller vers l'autre, de se construire, de vivre une vie normale, adaptée, je veux dire. Donc, par contre, leur expression est exacerbée, c'est-à-dire que vraiment, par rapport à des ados lambda qui vont avoir une crise d'adolescence, là on est quand même sur de la pathologie, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose, de par son intensité, qui relève plus de la pathologie et donc de la prise en charge par le médico-social ou la psychiatrie pour certains, parce qu'il y a certains qui auraient besoin plus d'une prise en charge psychiatrique que médico-sociale. Moi je trouve que ce sont des jeunes perturbés par leur vie et qui en retour perturbent leurs relations et les adultes qui s'en occupent. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'une définition qui, pour moi, est intéressante. C'est vraiment la question de la perturbation, parce qu'à la fois, ils sont perturbés, mais aussi, ils perturbent l'autre. Ils vont aller chercher l'autre là où ça fait mal. Ils cognent là où ça fait mal. Ils vont vraiment aller ils vont rentrer dans votre cerveau pour comprendre vos mécanismes de défense. Alors, ils le font pas consciemment, hein, bien sûr. Mais ils ont tellement été dans cette dynamique-là que du coup, ils sont capables de voir en deux minutes, d'analyser quelqu'un, de dire voilà, là, si je dis ça, ça va lui faire ça, et donc, je vais lui faire mal. Alors, c'est pas une volonté de faire mal, c'est une volonté d'aller vérifier si l'autre est solide sur ses bases, si l'autre est capable de le contenir, de le maintenir, de le tenir dans une dynamique positive. Donc, c'est plutôt, moi, je trouve qu'il faut lire les signes du comportement plutôt comme un signe de vie. Et une expression de quelque chose qui est de l'ordre de la vie, parce que ce que je dis souvent à vos équipes, d'accord, il est violent, d'accord, il bouge, d'accord, il est ceci, d'accord, il est cela, mais il est en vie. Et le jour où il arrêtera de bouger, le jour où il arrêtera de dire ça, le jour où il arrêtera d'être comme ça, peut-être qu'il sera moins en vie, peut-être que là, ce sera vraiment inquiétant, qu'il faudra vraiment le prendre en compte dans sa difficulté. Donc voilà, donc c'est des enfants qui perturbent la relation, qui perturbent nos repères, qui sont troublants, mais en même temps, qui sont riches de beaucoup de capacités de s'exprimer, d'exprimer leur joie, d'exprimer leur peine, mais aussi de projets, de projections. C'est des jeunes qui sont capables de remuer ciel et terre pour faire un projet et pour le mener. Et c'est pas toujours donné non plus par rapport à certains jeunes. Moi, je dirais que c'est des jeunes qui n'ont pas encore baissé les bras et qui se défendent comme ils peuvent face à leur angoisse. Voilà. Et ça peut être un peu pathologique par moment quand c'est exacerbé dans l'expression des troubles. Moi, les symptômes qu'ils expriment sont le signe d'une vie certes bruyante mais bien réelle. Donc pour moi, je les lis comme du matériel qu'ils nous apportent pour les aider à se soigner.
Bon, Bonjour, je suis Lily Tréorel, éducatrice à l'ITEP Tomkevitch. Un jeune arrive à l'ITEP par le biais d'une orientation de la MDPH, une notification qui oriente vers donc un ITEP, et un ITEP qui doit être en mesure de proposer un projet sur trois axes, pédagogique, éducatif et thérapeutique. Donc un projet éducatif avec une équipe éducative qui œuvre à l'institut et aussi à l'internat, avec plutôt un projet axé sur du dedans-dehors, donc un projet très individualisé qui doit répondre aux besoins du jeune, des besoins qui peuvent être malgré tout divers et variés, dans le sens où il y a certains jeunes qui sont déscolarisés qui vont avoir une nécessité à être davantage dans nos murs par le biais de l'école, avec une intention à le rescolariser à l'extérieur. Et puis il y a aux opposés de cela, plutôt des jeunes pour lesquels il y a vraiment un projet d'apprentissage à l'extérieur, avec un apprentissage dans un CFA et qui induit automatiquement un contrat de travail auprès d'un employeur. Donc voilà, on peut être sur ces extrêmes-là. Dans l'accompagnement qu'on offre, on a aussi tout l'aspect thérapeutique, avec des rencontres avec la psychologue, qui peuvent là encore prendre différentes formes, dans le sens où certains jeunes vont avoir une régularité d'à peu près une fois par semaine. Pour d'autres, ça va être comme Kevin qui témoignait tout à l'heure, de l'ordre de une fois par mois, une rencontre une fois par mois. Tout est à évaluer et à aménager en fonction des besoins du jeune. Et puis, il y a tout ce protocole d'évaluation qui est fait pour savoir quel type de thérapie va être bénéfique aux jeunes. Donc on a cette proposition de faire de la psychomotricité, de la thérapie par le cheval, mais également de l'art-thérapie. Et puis cette année, un atelier qui est mis en place conjointement avec la thérapeute et une éducatrice par le biais du jeu 8e dimension, qui permet aux jeunes, de manière moins induite qu'un rendez-vous duel dans un bureau, de l'aider en tout cas à penser par lui-même et d'assumer son propos aux yeux d'autres jeunes par le biais de différentes questions sur des thèmes qu'il choisira dans l'heure, quoi. Alors il y a une équipe éducative et il y a ce qu'on appelle ici un répondant. Communément à l'extérieur, on pourrait entendre référent, c'est-à-dire qu'on a à charge la mise en place du projet du jeune. Nous ne sommes pas responsables du jeune, mais nous avons cette charge que le projet qui sera proposé au jeune soit respecté dans sa mise en place. Voilà. Et puis un éducateur est présent dans la vie du jeune de différentes manières, par le biais de la vie quotidienne, par le biais des suivis ou de la mise en stage, et puis par le biais aussi fort de l'internat, qui ici est ouvert 3 soirs par semaine, et voilà, qui accueille un petit groupe. Voilà un petit peu comment l'éducateur peut intervenir grossièrement auprès du jeune, quoi.
Est-ce que l'éducateur rencontre aussi peut-être la famille du jeune pour échanger avec elle sur les modalités d'accompagnement ?
Alors évidemment, la famille a une place très importante dans le projet, un projet qu'on signe aussi par le biais d'un contrat de séjour avec les parents et qu'on tient informé très officiellement par le biais de rencontres dans le cadre de la restitution des conclusions de synthèse. Une synthèse voilà, qui a lieu de l'ordre de 2 à 3 fois par an où on réévalue le projet qui parfois peut ne pas bouger parce que celui qui est efficient est opérationnel. Et puis parfois, voilà, on aménage autrement. Et puis évidemment, la relation aux familles se fait par téléphone, au besoin, au gré du projet qui se déroule, quoi.
Donc je suis Virginie Dupont, je suis psychologue et coordonnatrice thérapeutique ici à l'ITEP Tomkevitch. Donc chaque jeune ici a un programme thérapeutique bien spécifique à son fonctionnement psychologique, à ses besoins. On lui propose au jeune, quand il est admis, d'avoir un bilan en art-thérapie et des rencontres avec moi, psychologue. Et à partir de ces premiers bilans, on voit en réunion d'indication qu'est-ce qu'on pourrait indiquer comme type de thérapie. Donc on propose thérapie dans psychomotricité, thérapie par le cheval, donc art-thérapie, des entretiens avec moi qui peuvent être hebdomadaires ou de façon plus espacée. Et pour certains jeunes qui ont du mal à être dans le face-à-face, dans l'échange verbal, on a aussi un groupe thérapeutique qui s'appelle la 8e dimension et qui travaille davantage la capacité à penser, à émettre un jugement sur des questions et qui du coup, par le biais du jeu, leur permet aussi de parler d'eux-mêmes plus facilement. Donc l'idée, c'est d'utiliser un maximum de médiation pour leur permettre d'être dans l'échange, parce que c'est vrai que directement dans le face-à-face, ils ont beaucoup de mal à se confier, donc il suffit d'instaurer une médiation et ça facilite beaucoup le travail thérapeutique avec eux. Alors c'est vrai que l'art-thérapie, c'est très libre. L'art-thérapeute, vous en parlerez mieux que moi, mais elle utilise toutes sortes de médiations. Ça peut aller du dessin à la peinture, au modelage, la sculpture. Ça peut être de la 3D avec toutes sortes de reliefs, de bricolage. Ce qu'on dit, c'est que l'art-thérapeute connaît les mécanismes humains impliqués dans l'activité artistique et elle va utiliser ces connaissances-là pour servir les objectifs du projet du jeune, qui est un projet vraiment personnalisé. Donc c'est vrai que c'est une thérapie qui fonctionne très bien avec nos jeunes qui ont des troubles du comportement. Ça les aide à être en relation aussi au travers de l'art, avec l'art-thérapeute. Sinon, thérapie par le cheval, ça a un intérêt particulier pour tout ce qui est relationnel. Les jeunes qui ont des difficultés relationnelles, c'est vrai qu'en étant en contact avec les animaux, ça vient travailler tout ce qui est la relation de confiance, l'apaisement dans la relation avec l'animal, le soin de l'animal, la permanence aussi, puisqu'ils ont toujours le même cheval tout au long de l'année. Donc c'est toute une rencontre qui se fait entre eux et le cheval.
Bonjour, je m'appelle Yvan Potvin, je suis professeur des écoles à l'Institut Tomkiewicz de Béton. Professeur des écoles dans un ITEP, c'est un petit peu, on va dire même c'est différent que d'être professeur des écoles dans une école primaire, puisque là on est vraiment dans une prise en charge personnalisée où on essaye de mettre en place un emploi du temps pédagogique qui répond au mieux aux besoins de chaque adolescent. Peut-être la différence, ça serait dans le contenu des séances, puisque je fais avec ces jeunes-là qui ont quand même des vécus scolaires un peu chaotiques. J'essaie de mettre en place des séances qui ne ressemblent pas à ce qu'ils ont pu vivre à l'école ou au collège, parce qu'on a des ados, donc ils étaient au collège. Donc moi, je travaille beaucoup par projet sur l'année, avec un thème sur l'année, et ce thème va me permettre d'aborder justement tout ce qui est matière générale. Donc là, actuellement, on travaille sur le Moyen-Âge. Donc voilà, on part toujours de lecture d'un roman, de divers supports. C'est un roman, ça peut être un film. Là, actuellement, c'est un roman. Et à partir de ce roman-là, eh ben, je vais mettre en place mes séances de mathématiques, de français, avec comme support de base le texte. Alors ici, à Béton, on est un établissement très ouvert sur l'extérieur, puisqu'on a 23 jeunes ici. Mais il faut savoir qu'on a une modalité de prise en charge très, très différente, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui sont scolarisés sur l'extérieur, justement. Des jeunes, donc on travaille beaucoup avec les établissements scolaires, que ce soit lycée, professionnel, collège, et puis avec d'autres établissements qui ne sont pas rattachés à l'éducation nationale, qui sont les MFR par exemple. Donc des jeunes qui sont là-bas, soit qui sont scolarisés, c'est-à-dire qu'ils étaient inscrits dans ces établissements avant d'être admis à l'ITEP. Et nous, notre souhait, c'est de maintenir les jeunes scolarisés à l'extérieur. Et aussi, on met en place des inclusions scolaires. Donc des inclusions scolaires, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui étaient scolarisés chez nous, et on leur propose de retourner dans un collège, sur des temps, des tout petits temps, dans un premier temps, pour qu'ils retrouvent enfin, les modalités extérieures. Donc on les scolarise souvent sur des îlots de compétences, c'est-à-dire trois matières. Et en fonction de leur du travail effectué, de l'évolution, on peut augmenter l'emploi du temps ou on peut suspendre l'inclusion scolaire si on voit que c'est compliqué. Mais il y a un très gros travail qui se fait avec ces établissements. Là, il y a des rencontres régulières avec les principaux, avec l'équipe pédagogique. Quoi. C'est vraiment un travail de partenariat. Quoi.
La suite sans l'ITEP, ben ça va. Après, moi, je peux me démerder seul. C'est juste que moi, quand je peux demander de l'aide, ben, je demande directement à l'ITEP. Mais sinon, il y a ma mère aussi qui me soutient. Il peut avoir des amis avec qui je peux me confier ou que je peux demander de l'aide, par exemple pour les devoirs en alternance ou les choses du genre, quoi. Donc je suis pas trop inquiet de toute façon, parce que si j'ai un problème, hein, je peux revenir, je pense, hein. Ils vont pas me rejeter.
Ils sont prêts.
Et puis oui, je suis prêt, oui, voilà, je suis prêt. Même j'étais peut-être prêt avant, mais pas sur tous les... Pas partout, je veux dire, pas au niveau scolaire encore. Il me fallait un peu de travail encore et je voulais être encore en charge... à l'ITEP pour qu'ils puissent m'aider justement à avoir mon examen.
Et la relation, j'imagine, avec ton patron aussi, dans le cadre de ton alternance, ça a dû beaucoup jouer en fait pour toi.
Oui, oui, très, très, très bien. Ouais. C'était une petite structure, donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé, franchement. Et une vraie rencontre, c'est ça. Et une vraie rencontre. Et franchement, il y a pas de mots. Et je la remercie, ouais, du fond du cœur.
Kevin nous racontait qu'il allait bientôt partir de l'ITEP. Est-ce que l'éducateur aussi a peut-être un rôle à jouer pour préparer les jeunes à passer à autre chose, à une autre étape dans leur vie? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des doutes, des craintes?
Effectivement, alors l'éducateur oui, mais l'institution en règle générale. Hein, le jeune repère bien qu'un éducateur n'est pas son éducateur, mais bien un éducateur d'une institution. Et à divers moments, le jeune a plus été en lien avec certaines personnes. Et puis voilà, il y a de la mouvance comme ça là-dedans. Après, évidemment, alors nous, on a la date butoir, l'âge limite de prise en charge qui est des 18 ans, donc il y a quelque chose comme ça qui vient statuer la fin. Mais au vu de la tournure de certains projets, voilà, il y a un timing très très individualisé là encore, où on sent à quel moment on va commencer déjà à préparer et avec le jeune et avec sa famille la sortie. Et effectivement, Kevin expliquait un petit peu sa temporalité, où l'année dernière, il se savait avoir grandi, avoir mûri de son expérience de l'ITEP, mais encore avoir besoin de cette réassurance que peut apporter l'ITEP dans des gros moments de doute, où pour lui c'était conséquent puisqu'il est en apprentissage. Au terme de ces deux années, il y a donc le diplôme du CAP, et sa difficulté majeure à lui était justement son rapport au scolaire. Voilà, et donc là, il a pu profiter de ce suivi encore cette année, qu'il a d'autant plus mis en confiance. Et lui peut dire aujourd'hui, effectivement, qu'il est prêt, qu'il n'a pas terminé, qu'il a encore du travail à faire, évidemment, mais qu'il se sent prêt, en tout cas, à l'assumer par lui-même et par ses ressources personnelles qu'il a, soit dans sa famille, soit dans ses amis, comme il disait. Après, on a une maman qui croit énormément en son fils. C'est quelque chose aussi qu'elle peut verbaliser aujourd'hui, dont il peut, lui, aussi savourer, mais qui a toujours peur du « au cas où », et qui, effectivement, voilà, se prépare à cette sortie. Mais bon, si on lui avait proposé une année supplémentaire, je pense qu'elle l'aurait volontairement privée.
On était en off, là, en train de parler de ta maman, justement, que ça allait peut-être être plus dur pour elle que pour toi de quitter l'ITEP. Qu'est-ce que ça lui a apporté à elle, selon toi ?
Eh bien, l'ambiance à la maison, parce que j'étais quelqu'un de très agité à la maison, et puis ouais, c'était pas toujours facile pour elle. Et du coup, je pense qu'elle est très très contente du résultat depuis ces années-là. Et puis maintenant, tout se passe très bien et on continue à vivre notre vie, quoi. Ouais, cool. I'm in trouble with my sight clothes. I'm in trouble cause my eyes are gone away. It keeps me in the dark, close.
parliez de l'importance du milieu ordinaire et ensuite on parlait en début d'entretien de l'importance d'avoir un parcours de soins qui soit continu, qui ne connaisse pas de rupture. Comment ça se passe pour un jeune aujourd'hui qui s'apprête à avoir à peu près 18 ans et pour qui l'ITEP fera peut-être passer à autre chose? Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui pour accompagner ce jeune vers le milieu ordinaire?
Qu'est-ce qu'il existe? Moi je dirais que d'abord que 70 à 80% des jeunes dont on s'occupe sortent de l'ITEP avec une intégration scolaire ou professionnelle de type apprentissage. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une majorité des jeunes qui n'ont pas forcément besoin d'un suivi après l'ITEP. Pour autant, il y en a quand même qui en ont besoin et pour lesquels, du coup, il n'y a pas grand-chose. Alors quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a quand même des associations comme Graphique, qui sont des associations qui s'occupent des jeunes, justement, au-delà de 18 ans, qui sont dans une situation d'apprentissage avec un patron et qui vont pouvoir, du coup, les soutenir dans leur apprentissage. Donc ça, c'est une association qui peut aider un enfant qui a besoin d'un soutien après 18 ans, donc après l'ITEP. Mais nous, on a quand même des jeunes qui sortent d'ici plutôt au bénéfice de l'âge qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement guéris, ils ont encore des gros troubles, et notamment sur la question de la maturité psychique. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la maturité psychique, un enfant de 18 ans, il n'a pas forcément 18 ans dans sa tête et qu'il peut avoir 14 ans. C'est un petit dans un corps de grand. Et du coup, la société va lui demander d'accomplir des tâches ou des fonctions qui ne sont pas celles qu'il peut remplir, puisqu'à 14 ans, on ne va pas avoir la même capacité à aller faire, par exemple, je sais pas moi, aller faire des démarches auprès d'un employeur, à aller faire des démarches auprès de la MDPH, à aller faire des démarches auprès de la mission locale, auprès de la NPE. Donc c'est des jeunes qui se retrouvent du coup en grande difficulté de désocialisation du fait qu'on leur dit « t'as 18 ans, t'es guéri ». Non, quand tu sors de l'ITEP, t'as 18 ans, t'es pas forcément guéri, t'as encore besoin de psychothérapie des fois, t'as encore besoin d'un soutien éducatif, t'as encore besoin d'un soutien pédagogique. Donc nous, on a dernièrement proposé à l'ARS d'agrandir notre agrément, d'augmenter notre agrément de l'ITEP Tonkiewicz de 8 places, justement pour répondre aux besoins des 18-25 ans. Donc dédier des places spécifiques aux 18-25 ans pour pouvoir leur permettre de continuer à faire ce travail d'appropriation de leur vie et de leur histoire et aussi de leur futur et pouvoir vivre un futur immédiat plus intéressant. Juste un exemple, un jeune arrive à 18 ans avec ses valises à l'ITEP Tonkiewicz. C'était le jour des vacances. On lui dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu arrives? Tu étais dans une famille d'accueil. Oui, mais la famille d'accueil vient me virer. C'était le jour de son anniversaire aussi. Donc le jour des vacances, le jour de son anniversaire, le jour de ses 18 ans, la famille d'accueil lui a dit « Au revoir, on ne veut plus de toi ». C'était sûrement passé quelque chose de grave dans la famille, j'imagine. N'empêche que ce jeune-là, la seule chose qu'il a trouvée, c'est venir planter sa tente à côté du canal, à côté de l'ITEP, et venir nous voir en disant « Là, je suis un petit peu en difficulté, j'ai une tente, je vis dans la rue, enfin pas dans la rue, mais près du canal, donc, et je suis en grande difficulté ». Ce jeune-là, on était, nous, quasiment dans l'obligation d'arrêter la prise en charge, puisqu'on ne peut pas vraiment fonctionner au-delà de 18 ans, même si on pourrait avoir des dérogations pour un petit bout de temps, mais on ne peut pas aller tellement plus loin. On lui a trouvé un foyer jeune travailleur, on lui a trouvé une mission locale, on lui a fait faire ses papiers, parce qu'il n'avait pas fait aucun papier par rapport à la MDPH, notamment pour obtenir des droits auxquels il pouvait prétendre. Et puis on lui a fait aussi sa carte vitale, voilà, tout ça. Donc tout ça, ça lui a permis de reprendre pied, de retrouver ensuite un appartement, de trouver un travail, et puis maintenant il va plutôt bien. Mais s'il n'y avait pas eu ce petit travail qu'on a fait pendant 3-4 mois là, supplémentaires, gratuitement, parce qu'on n'était pas payé pour ça, hein, on n'était pas obligé de le faire, on l'a fait parce qu'on trouvait que c'était important pour lui et pour nous aussi, mais c'est vrai qu'on l'a fait à titre gracieux, et sans vraiment de mandat aussi, parce que du coup, il aurait peut-être fallu même avoir un vrai mandat pour intervenir sur la question de la responsabilité. Mais en tous les cas, on ne se voyait pas lui dire « Ben non, je suis pas responsable de toi, donc tu ne m'intéresses plus et tu retournes à ta tente et puis on s'occupe plus de toi. » Donc ça, on ne pouvait pas faire ça. Donc du coup, on s'est dit « Mais là, il y a un vrai problème. » Il y a des jeunes qui sortent à 18 ans, qui ne sont pas prêts, qui sont en grande difficulté, qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent à l'hôpital parce que on n'a pas pu continuer à leur donner des soins qui étaient appropriés à leurs besoins. Et donc, on est en train de monter un projet avec l'ARS et j'espère qu'un jour, ce projet se aboutira parce que ça évitera qu'il y ait des jeunes qui soit clochard dans des dynamiques de clochardisation par la suite.
Vous étiez bien dans Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. La semaine prochaine, c'est au cœur d'une bibliothèque de livres vivants que nous discuterons des différentes facettes de l'adolescence